Lumière et anti-lumière en Iran, qui vient de sortir aux éditions du PUF, revient sur l'histoire de l'Iran en partant d'un paradoxe. L'Iran fut, dès 1906, le premier pays du monde musulman à connaître une révolution constitutionnelle inspirée des Lumières et de la Révolution française. Mais l'Iran a aussi été le premier à se transformer en théocratie islamique. Leurs auteurs, Stéphanie Rosa et Amir Pacha Tavakoli, qui refusent des lectures culturalistes et toute forme d'essentialisme, montrent comment ce pays est, depuis près de deux siècles, le théâtre d'un affrontement entre les héritiers des Lumières et de la modernité politique d'une part, et les forces d'un antimodernisme islamiste. Au fil de leurs analyses, ils nous apprennent des faits surprenants, mal connus, comme par exemple que l'islam politique a emprunté à l'idéologie fasciste européenne bien plus qu'il ne l'admet, que l'antisémitisme de la République islamique est un produit importé d'Occident et non un héritage de l'islam traditionnel, que la gauche iranienne s'est suicidée politiquement en s'alliant avec Khomeini au nom de l'anti-impérialisme, que les juifs d'Iran jouaient un rôle majeur dans la vie culturelle et politique du pays pendant tout le XXe siècle, et que les mollahs, en imposant pendant 46 ans une religion d'État, ont involontairement réalisé la laïcisation massive d'une grande partie de la société civile iranienne. Alors c'est quelques-unes des questions probablement sur lesquelles on va revenir avec donc Stéphanie Rosa, bonjour.
Bonjour.
Et Amir Pacha Tavakoli, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là avec nous pour parler de ce livre. Avant de rentrer précisément dans votre livre, j'aimerais vous poser en fait deux petites questions presque préambule. Sur le contexte de la sortie de votre livre, j'imagine que vous avez longtemps travaillé, plusieurs années, et il se retrouve en librairie au moment où l'Iran est au cœur de l'actualité mondiale, où l'Iran est en guerre, et qui fait que le présent, on pourrait dire, vient percuter l'histoire que vous nous racontez. Donc il y a cette première circonstance de contextuel étrange, j'imagine, pour vous, hein, qui fait que votre livre a une résonance, on le lit en y cherchant des clés de lecture pour comprendre ce qui se passe.
Alors, en réalité, c'est vrai que nous, on a commencé à travailler sur ce texte il y a quelques années, il y a trois années même. Et donc, on n'attendait pas à cela, à cette actualité-là. Et d'ailleurs, cette actualité n'est pas traitée forcément dans le texte, mais on estime que le texte donne des clés de compréhension. Parce que finalement, ce qui se passe aujourd'hui, si on prend la répression qui a eu lieu en janvier ou bien la guerre actuelle, ces épisodes-là ne sont pas séparés, ne sont pas éloignés de ce qui précède, des choses qui précèdent. Et on estime que justement, le livre donne un certain nombre de clés de compréhension pour mieux comprendre l'actualité.
Ouais, on verra lesquelles, mais j'imagine vous aussi, vous avez dû être saisi par...
On s'attendait aux manifestations du mois de janvier qui sont venues confirmer une fois de plus l'extraordinaire capacité de résistance des Iraniens.
Vous les évoquez dans la conclusion.
On l'évoque un peu parce que voilà, c'est le moment où on terminait, on bouclait l'ouvrage que les Iraniens ont commencé à descendre massivement dans la rue contre le régime. Donc voilà, on a eu cette première actualité-là, et puis effectivement, on avait déjà rendu le livre, et là, la guerre arrive, donc nouvelle péripétie, mais qui est en même temps, effectivement, compréhensible à partir du contexte qu'on décrit dans le livre, dans la mesure notamment où la réaction des Israéliens et leur volonté de mettre fin au programme nucléaire iranien est directement liée à ce que les mollahs iraniens veulent faire de ce programme nucléaire, et à leur antisémitisme exterminateur, qui ne cesse de proclamer, en fait, depuis l'avènement de la République islamique en 1979.
Donc on reviendra sur ces points-là, mais je voulais avoir une sorte d'avis sur cette concomitance étrange. Et une deuxième question préalable, c'est sur votre travail en commun. Stéphanie Rosa, vous êtes spécialiste de la pensée des Lumières, vous êtes philosophe. Moi, j'ai en tête notamment un de vos livres qui s'appelle « La gauche contre les Lumières ». Et là, vous êtes sur un terrain qui n'est pas immédiatement le vôtre, on pourrait dire, qui est une question de géopolitique, d'histoire de l'Iran. Et vous, Amir Pacha, vous vivez en France maintenant et qui enseignez en France depuis de nombreuses années. Comment se fait l'alliage, en fait, et comment, en fait, des préoccupations qui sont les vôtres dans vos travaux respectifs depuis quelques années, se convergent pour faire ce livre-là.
Moi, je travaille quand même dans une perspective, la perspective d'une hypothèse globale sur les luttes politiques depuis la Révolution française, qui n'est pas une hypothèse que j'ai forgée toute seule, mais dont j'ai hérité, j'estime, à la fois de Zev Sternel, de l'historien Zev Sternel, et du philosophe Georg Lukács, qui est cette hypothèse qui veut qu'au fond, la Révolution française a complètement reconfiguré le champ politique, avec en proposant un projet, le projet de la modernité, fondé sur la Déclaration des droits de l'homme, qui est un peu la synthèse des idéaux des Lumières du XVIIIe siècle, et donc qui propose ce projet qui est divers, hein, qui débouche à la fois sur la tradition libérale et sur les traditions socialistes, les libéralismes et les socialismes. Donc on a ce vaste camp politique qui émerge en 1789, et Sternel et Lukács ont remarqué tous les deux, chacun à leur manière, que face à ce projet politique de la modernité, ou à ces projets politiques, il y a un contre-projet qui se développe dès 1789, une contre-modernité qui elle aussi prend des visages multiples. Hein. Les premiers contre-révolutionnaires, les premiers conservateurs qui se mettent à vituperer contre la Révolution française dès l'époque, Edmund Burke, Joseph de Maistre, l'abbé Baruel et d'autres, et qu'en fait ces gens-là, eux aussi, fondent une tradition qui va avoir des répercussions dans toute la modernité et dans le monde entier en réalité. Donc Sternel et Lukács ont travaillé sur les antimodernes européens, essentiellement, un petit peu américain, européen. Et moi, en fait, ce que j'ai découvert en m'intéressant à l'Iran avec Amir Pacha, c'est que cette antimodernité, elle avait aussi des cousins ou même des frères en Orient, dans le monde non européen, et que les islamistes incarnaient cette antimodernité à l'oriental, on peut dire, que donc il n'y avait pas d'imperméabilité entre l'Orient et l'Occident de ce point de vue-là, mais que les luttes politiques, évidemment, elles sont différentes, les thématiques sont différentes, les arguments peuvent être différents, mais il y a quand même de profondes communautés de perspectives, et que donc lumière et anti-lumière, c'est vrai sur le terrain européen, mais c'est vrai aussi sur le terrain non-européen. Mmh. Et donc c'est ça qui m'a amené, moi, à m'intéresser à la situation iranienne, parce qu'elle est, en quelque sorte, un laboratoire particulièrement important de ces luttes des Lumières et des Anti-Lumières dans le monde non-occidental, dans le monde oriental, musulman en l'occurrence, au XXe siècle.
Cette universalité de la Révolution française qui m'a amené ici,
vous êtes la preuve d'un dialogue qu'a pu avoir, qu'évoquait Stéphanie Rosa, sur le fait que, effectivement, ce qui avait pu avoir lieu en Europe avait des échos jusqu'en Iran. Plus que des échos, d'ailleurs, on va rentrer maintenant dans le livre. Votre livre, en fait, il part d'emblée à la fois d'un paradoxe et d'une sorte d'un pari méthodologique, hein, on va dire ça comme ça. Le paradoxe, c'est que, je l'ai un peu rappelé dans l'introduction, c'est à la fois le premier pays musulman à connaître une révolution constitutionnelle moderne, hein, issue des Lumières, avec en référence les Lumières et la Révolution française en tête, et le premier à installer durablement une théocratie révolutionnaire, qui s'auto-proclame comme telle. Alors,
qu'il l'est, bien sûr.
Alors, évidemment, première question, qu'est-ce que ce paradoxe oblige à revoir dans une manière habituelle de raconter l'histoire iranienne. Je vous pose tout de suite la deuxième question, parce que je pense qu'elles sont enchâssées l'une dans l'autre. Le pari méthodologique, il est aussi dans votre refus de lire l'histoire de l'Iran comme une exception culturelle ou religieuse qui serait naturellement étrangère au droit à la démocratie, au sécularisme. Et justement, qu'est-ce que ça apporte, cette grille universaliste, en référence encore une fois aux Lumières, par rapport aux lectures qui dominent et auxquelles on est confronté en permanence, lectures culturalistes, orientalistes, strictement géopolitiques. Hein. Mais alors évidemment, on se demande aussi si on ne plaque pas sur l'Iran des catégories qui n'ont pas été forgées pour lui. Alors voilà, comment être universaliste sans être occidentalo-centriste, on pourrait dire, et comment, effectivement, pour revenir à ce paradoxe, comment cette histoire, comment ce paradoxe, il nous renseigne davantage sur la situation que les lectures très, très sommaires qu'on peut avoir très spontanément, enfin, qui sont comme des pensées dominantes sur la situation. Pardon, je pose deux questions en même temps, mais il me semblait qu'elles avaient un...
Je pourrais peut-être sur le plan méthodologique, quelque chose qui était quand même... Parce que ce que vous dites est tout à fait vrai, on n'avait pas l'intention de réduire l'Iran à une entité exotique, comme ça a été le cas dans certaines traditions orientalistes, où en France nous avons des très grands représentants, je pense par exemple à Henri Corbin, mais nous on n'avait pas forcément cette grille de lecture. Et puis sur un plan méthodologique, on s'est quand même pas mal appuyé sur le regard justement qu'on portait sur les valeurs universelles de l'Iran, l'intérieur de l'Iran. Donc on était très sensible à travailler sur une base des archives, une base bibliographique qui n'était pas uniquement écrite dans des langues européennes latines, mais essentiellement en persan. Donc ça nous a permis, d'une certaine manière, d'éviter de plaquer une vision ou au contraire de vouloir parler d'une certaine singularité iranienne, etc., sans pour autant nier le fait que la réception des Lumières en Iran, c'est une réception avec des moments variables.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a une idée de l'univers européen issu des Lumières qui vient rencontrer une idée propre à l'Iran qui s'était développée de l'intérieur? C'est ça qu'il faut comprendre.
Moi, ce que je dirais plutôt, c'est qu'en fait, la singularité de l'Iran, qui est une réalité qui est aussi universelle que la singularité de n'importe quelle ère culturelle, mais elle a tendance à se réduire à partir de la fin du 19e siècle parce que les idées de 1789, les idées modernes, pénètrent en Iran à partir de cette date, que donc à partir de cette date, il y a des représentants des Lumières iraniennes, de ce qu'on pourrait appeler des Lumières iraniennes, dans le champ politique, dans le champ culturel, intellectuel en Iran, et que de la même manière que partout ailleurs, cette arrivée de la modernité politique et intellectuelle en Iran provoque une contre-modernité. Et donc là, en fait... les islamistes, puisque ce sont eux qui incarnent l'antimodernité dans le monde musulman au XXe siècle, sont des gens qui, bien sûr, brandissent le Coran matin, midi et soir, mais qui, en fait, sont profondément traversés par les mêmes préoccupations antimodernes, contre-révolutionnaires, que les contre-révolutionnaires, les conservateurs européens, et qui se nourrissent de la même manière que la modernité politique iranienne se nourrit de la modernité politique occidentale, de la même manière, l'antimodernité se nourrit des sources anti-modernes occidentales. Et du coup, alors bien sûr avec une acclimatation locale, mais du coup, en fait, il y a de fait un alignement, mutatis mutandis, des grands affrontements européens, on les retrouve importés en Iran au XXe siècle. Et moi, il me semble que si on ne prend pas en compte cette dimension-là, si on persiste à voir l'Iran et les partisans de Khomeini comme des gens incompréhensibles du point de vue de l'Occident, et bien en fait, on ne comprend pas ce qui s'est passé. On ne comprend pas les raisons de leur propre combat, on ne comprend pas leur destinée, on ne comprend pas non plus leur victoire finale, qui est profondément liée... À l'importation des idées modernes et antimodernes dont j'ai parlé, mais aussi à la présence de l'impérialisme occidental en Iran, et donc à la réaction que suscite cet impérialisme occidental. Le système monde qui devient notre lot commun au XXe siècle explique en fait que cette grille de lecture, à mon avis, elle soit pertinente.
Mais il faut insister quand même sur l'intensité du paradoxe que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le premier pays musulman à proposer une révolution constitutionnelle moderne, le tout premier, et la théocratie, 40 ans, non, 70 ans plus tard, qui va, la théocratie révolutionnaire la plus radicale et la plus violente va être créée dans le même endroit. Ça, c'est quand même absolument, on pourrait dire, unique. Hein.
Et ça, c'est lié, en fait, ça s'explique par une conjonction de facteurs qui tiennent en partie au hasard, et puis qui s'expliquent, qu'on essaye d'expliquer, mais il faut tenir compte, à mon avis, d'une part, du fait qu'il y a une tradition révolutionnaire en Iran, qui est inaugurée en 1906, mais qui, en fait, les Iraniens ne cessent, la population iranienne ne cesse de se mobiliser, d'intervenir. Il y a plusieurs crises politiques, donc il y a une agitation politique importante et une participation politique importante en Iran tout au long du court XXe siècle, hein, entre 1906 et 1979. Donc il y a cette tradition révolutionnaire. Il y a le rôle de la monarchie, cette nouvelle monarchie qui est issue, in fine, de la révolution constitutionnelle, qui est à la fois une monarchie modernisatrice, donc qui a hérité de certains aspects de la modernité occidentale, mais qui est en même temps une monarchie autoritaire, donc détestée, et qui en plus est une monarchie liée aux puissances impérialistes, donc qui apparaît comme le jouet des puissances occidentales et de la Russie aussi, un peu. Donc le rôle de la monarchie et le rôle du clergé chiite, qui a une place particulière dans la société iranienne depuis toujours et qui va jouer un rôle très particulier dans la société iranienne tout au long de ces décennies cruciales.
Un rôle particulier ambigu, j'ai l'impression, parce que j'ai le sentiment qu'il est ambivalent dans cet affrontement qu'on a posé entre modernité et conservatisme. Vous le décrivez comme une sorte de kaléidoscope complexe.
Alors, quand même à préciser que, certes, une partie du clergé se montre favorable à ce qui était la révolution constitutionnelle, mais change d'avis très vite. Pourquoi ? Parce qu'ils se rendent compte assez rapidement que la liberté de conscience, l'égalité femmes-hommes, la liberté d'expression, la liberté religieuse sont des choses qui ne peuvent pas entrer dans leur vision du monde, d'une certaine manière. Donc, oui, par opposition à ce qui était la monarchie, il y a en effet une partie du clergé qui entre dans le jeu politique, mais c'est un moment qui ne dure pas très longtemps parce que assez vite, le clergé se retrouve en opposition vis-à-vis des libéraux au début du XXe siècle qui étaient en faveur des valeurs progressistes. Donc là-dessus, les propos de clergé, il n'y a pas d'ambiguïté. Ils voient l'émancipation des femmes comme quelque chose qui va ouvrir vers pervertissement des mœurs. Ils voient la liberté de conscience comme quelque chose qui va amener à l'oubli de la religion. Donc assez vite, ils se rendent compte que révolution constitutionnelle, d'accord, mais avec des contraintes, avec des limites qui doivent suivre ce qui est la loi islamique. Donc là-dessous, le jeu politique du clergé, c'est très très net. Et tout de suite, il y a un clivage entre les libéraux, notamment les libéraux laïcs, et le clergé, justement, qui s'oppose de manière très très ferme à ce qui est la liberté de conscience, ou la liberté de blasphémer. Ça devient très vite un enjeu majeur parce que dès le début du XXe, il y a cette idée d'avoir des journaux dans lesquels on se moque des religions, etc. Et blasphémer des petites moqueries. Hein. Il ne s'agit pas de des choses qu'on peut imaginer aujourd'hui. Mais clergé est très vite crispé par tout cela. Donc, ils veulent éventuellement accompagner une partie de la lutte politique pour séparation des pouvoirs, pour limiter le pouvoir du roi, etc., mais pas pour autant adhérer aux valeurs progressistes sur égalité femmes-hommes, liberté de pensée, etc. Donc assez vite, ils s'opposent aux réformateurs libéraux en Iran.
Vous avez opposé modernité et anti-modernité. Hein. En même temps, alors, est-ce que j'ai bien compris, mais il me semble que vous insistez sur une idée assez décisive, c'est que cet islamisme iranien qui va finir par gagner et prendre le pouvoir en 79, il n'est pas un simple retour à la tradition. Hein. Vous le décrivez aussi comme le produit de la modernité politique. Hein. On parlera sans doute du dialogue avec les nazis et le fascisme européen. Il y a une fascination pour le fascisme européen. Justement, en quoi l'islamisme... Et d'ailleurs, vous employez l'expression « modernisme réactionnaire », c'est-à-dire que c'est pas moderne anti-moderne, mais c'est à un moment donné la synthèse d'une modernité avec un mouvement réactionnaire. Donc, en fait, en quoi c'est aussi, enfin, l'islamisme iranien, c'est aussi une idéologie moderne. C'est ça que j'ai envie de poser comme question, organisée, révolutionnaire, et pas seulement une résurgence archaïque, en fait, tout simplement.
C'est vraiment ce que Lukács et Sternel ont mis en évidence, qui me paraît vraiment hyper important, c'est que on se représente souvent les conservateurs ou les réactionnaires comme des gens qui veulent simplement un retour en arrière. C'est une manière erronée de voir les choses, parce qu'en réalité, qu'est-ce que le conservatisme ? C'est une réponse à la modernité, et donc c'est quelque chose de structurellement nouveau. C'est une tradition qui évidemment puise dans certains éléments du passé, mais qui, pour façonner un projet nouveau, un projet donc anti-moderne, donc qui présuppose la modernité, hein, et qui ne peut pas l'enjamber, qui veut la dépasser, en quelque sorte. Alors, bien sûr, en revitalisant des institutions passées, etc., mais qui, en fait, si on le regarde avec objectivité, est un projet neuf, tout aussi neuf que la modernité. Et le projet islamiste, puisque c'est de ça dont il s'agit, évidemment, officiellement, j'ai envie de dire, ils veulent restaurer le califat omeyyade médiéval, mais en réalité, ce califat omeyyade qui se perd à moitié dans les brumes du mythe, hein, c'est en fait un califat, une nouvelle forme d'organisation politique qui passe par la fin de tous les partis politiques traditionnels, le dépassement de tout ce que de l'égalité civile, de la mixité, de la liberté de conscience, etc. Et on le voit bien dans les institutions de la République islamique qui ont été mises en place après 1979. C'est un montage institutionnel qui est radicalement neuf, hein, qui est une théocratie, effectivement, mais pas du tout une théocratie au sens médiéval, qui est une théocratie totalement moderne. Et donc, quand on parle de modernisme réactionnaire, alors ça, c'est une expression qui est empruntée à un historien du nazisme.
Jeffrey Herf.
Voilà, Jeffrey Herf. Donc, c'est vraiment pour désigner ce qu'ont fait les nazis, mais qui, en fait, eux aussi ont proposé un projet complètement neuf, à partir, effectivement, de certains éléments, bien sûr, hérités d'un passé plus ou moins mythologique, l'Allemagne, etc., traditionnelle, l'identité allemande, mais aussi qui ont intégré certains aspects de la modernité tout à fait consciemment, au premier rang desquels la technologie, la science et la technologie moderne, qu'ils ont mises au service de leur projet réactionnaire. On remarque un peu la même chose chez les Mollahs. Le projet nucléaire des Mollahs, c'est par excellence l'expression de cela. Utiliser les moyens technologiques et scientifiques de la modernité au service d'un projet réactionnaire.
Voilà, c'est peut-être le moment aussi de revenir sur une des thèses, enfin sur un des fils rouges de votre livre, qui est d'expliquer et d'analyser comment l'islam politique, pour vous, appartient à la même famille idéologique que le fascisme européen, avec des liens parfois extrêmement concrets. Il y a un chapitre entier sur la coopération entre les nazis et les Irans dans les années 30.
Oui, alors ça, c'est un élément qui est mal connu et c'est étonnant qu'après tant d'années où l'islamisme est devenu une réalité que subissent la plupart des pays du monde, on n'ait toujours pas une connaissance précise de ce phénomène, mais l'islamisme tel qu'il est né à la fin des années 20 en Égypte, c'est un mouvement politique qui est en partie inspiré par les mouvements fascistes européens. Tout à fait explicitement.
Explicitement, c'est ça.
Al-Banna,
les textes,
le fondateur des frères musulmans égyptiens. Donc, il réagit à l'arrivée de la modernité en Égypte et dans le monde musulman, la fin du califat proclamé par Atatürk, la promulgation de la constitution égyptienne, qui est une constitution qui importe des éléments de modernité en Égypte. Et donc, il réagit à ça. Et notamment dans la structure organisationnelle des frères musulmans, le culte du chef, les formes de militantisme qu'il impose aux frères, c'est-à-dire le fait de ne pas seulement prêcher dans les mosquées, mais d'être présent dans les syndicats, de faire des réunions indépendamment du prêche du vendredi, de s'occuper d'aide sociale, de faire de la propagande par le biais de brochures, de tracts, etc. Donc c'est vraiment des formes modernes de militantisme inspirées de ce que font les nazis et les fascistes à la même époque en Europe, et puis toute l'organisation paramilitaire, il y a une dimension paramilitaire dans l'organisation des frères musulmans, voilà, donc il y a vraiment une admiration et une imitation du fascisme européen, et puis évidemment un élément doctrinal central, c'est l'antisémitisme qui a importé, alors pour le coup qui est importé d'Europe, alors c'est pas seulement
là je vous interromps parce que moi, ce qui m'a absolument saisi dans le chapitre consacré aux années 30 et au dialogue entre entre les nazis et les autorités, la société iranienne, c'est à quel point ils achètent le nazisme, mais sans l'antisémitisme. Ça ne les intéresse pas, l'antisémitisme. Mais non seulement ça ne les intéresse pas, mais ils le contestent. Il y a cette chose absolument stupéfiante, en vérité, quand on voit effectivement la manière avec laquelle l'antisémitisme est devenu une pièce centrale de la doctrine
des Mollahs.
Non, bah, ça c'est vrai que c'est une des particularités justement de l'histoire iranienne dans sa rencontre avec l'idéologie nazie qu'on a voulu justement mettre en avant parce que c'est peu connu, ouais, c'est mal connu.
C'est
donc on a essayé de l'expliquer parce que finalement dans les années 30 avec l'arrivée, bah, ce qu'on appelle le moment musulman du nazisme et du fascisme, alors l'antisémitisme joue un rôle fondamentale en ce qui concerne, par exemple, le soutien que, soi-disant soutien que les nazis montrent au mouvement indépendantiste en Afrique du Nord ou dans certains pays du Moyen-Orient. En Iran, ça ne fonctionne pas du tout comme ça, parce qu'ils se rendent compte assez vite que finalement, la propagande antisémite, c'est pas sur cela qu'ils peuvent viser pour gagner, en tout cas, la société iranienne. De l'autre côté, bah, l'Allemagne est quand même regardée comme une voie alternative, comme une troisième voie, on l'appelait comme ça à l'époque, pour d'une part combattre l'Union soviétique et d'autre part se débarrasser de la Grande-Bretagne. Mmh. Donc là-dessus, à l'époque de Reza Shah, l'Allemagne nazie est regardée comme une sorte d'espoir. Mais assez tôt, les représentants, les différents représentants des gens qui ont joué une sorte de passerelle pour introduire les idées nazies dans la société iranienne, ont tout de suite remarqué que la dimension antisémite, ce n'est pas cela qui pourrait permettre justement aux idées nazies de pénétrer dans la société iranienne.
Alors pourquoi ?
Alors justement,
pourquoi cette résistance ?
Parce que c'est en lien avec ce que vous aviez dit au départ, avec la révolution constitutionnelle et surtout avec les alliances israélites universelles qui arrivent en Iran dès la fin du 19e, mais au début du 20e, c'est une institution qui existe et il y a toute une partie de l'intelligentsia iranienne qui est formée désormais dans les alliances israélites universelles. Donc de penser que les juifs, c'est un peuple étranger, un corps étranger, etc., c'est quelque chose qui ne marche pas parce que les alliances acceptent aussi les non-juifs assez tôt dans leur système éducatif. Donc, d'une certaine manière, comme ça a été dit, hein, c'était de moderniser l'Iran. Bah, qui sont les gens qui vont moderniser l'Iran? Bah, cette intelligentsia vient justement de l'Alliance israélite universelle. Donc, de vouloir parler des Juifs comme, soi-disant, un problème face à ce qui est la fabrique de la modernité et le nationalisme en Iran, c'est quelque chose qui ne marche pas. Et donc, c'est petit à petit que les nazis aussi se rendent compte de cela. Donc, désormais, bah, les Aryens du Nord, les Aryens du Sud, etc., ils vont plus appuyer sur ce discours-là. Et le discours anti-bolchevique, anti-soviétique et anti-britannique. Oui. Ce qui est quand même assez exceptionnel dans le paysage arabo-musulman comme réception du nazisme. Donc,
non, c'est non seulement exceptionnel, et c'est aussi, ça renvoie encore à un autre paradoxe, ou plutôt c'est le même qui se décline sur la figure de la présence juive en Iran, à savoir que vous consacrez vraiment un très long chapitre aux juifs d'Iran au XXe siècle, c'est vraiment passionnant, j'ai appris un grand, grand nombre de choses qui m'étaient totalement inconnues. C'est une trajectoire d'émancipation. Enfin, il y a de la persécution, il y a de l'émancipation, il y a un rôle politique actif. Moi, j'aimerais que vous reveniez là-dessus, parce que ça éclaire autrement l'histoire générale de l'Iran moderne. Et le paradoxe, c'est qu'il y a, il y a la figure d'un premier ministre d'origine juive, je ne savais pas. Il y a des députés qui ont été fusillés. Il y a des. Bon, et on voit bien que. C'est comme un épisode du paradoxe dont on a parlé d'emblée. Hein. Il y a une société d'abord qui intègre les juifs dans sa modernité laïque et puis après qui les exclut dans sa modernité théocratique. Quoi. C'est incroyable cette trajectoire de la présence juive en Iran au XXe siècle.
Hein. Oui, c'est quelque chose d'assez incroyable dans le sens que finalement, la présence des juifs en Iran est une présence millénaire. Hein. On l'a dans la Bible, on l'a dans la tradition historiographique grecque, donc ça ne date pas du 19e ou du 20e siècle. Mais ce qui est quand même très important dans l'histoire du 20e, c'est leur entrée dans la vie politique et le rôle qu'ils ont joué par rapport à la modernité politique. Des choses qu'on n'a pas forcément évoquées dans le livre, mais par exemple, le rôle qu'ils ont joué dans la promotion de la musique iranienne. Le rôle qu'ils ont joué dans la littérature iranienne. Donc, finalement, les Juifs d'Iran sont un pilier de ce qu'est la modernité politique, littéraire et culturelle en Iran. Et à partir de la révolution constitutionnelle, ils vont être représentés. Donc, il y a un panel large. Il y a des libéraux, il y a tout, assez vite des sympathisants des idées socialistes, des idées communistes, etc. Bah, le Parti communiste iranien est quand même grandement... Enfin, c'est un fait un peu discutable, mais on dit qu'à peu près la moitié de ces cadres étaient composés des gens, des Iraniens d'origine juive. Donc le rôle des juifs dans la modernité iranienne est très très important. Et ça, on le voit tout au long du XXe siècle. Et ce n'est pas par hasard que finalement, lors de la deuxième moitié du XXe siècle, il y a un autre discours anti-moderne qui prend justement le juif cette fois-ci comme ennemi. Et qui demande aussi, vous voyez par exemple, si vous prenez l'exemple des juifs d'Iran, souvent on dit, oui, ils sont représentés au Parlement, etc. Mais tout cela, c'est une représentation qui est extrêmement biaisée et elle est fausse d'une certaine manière. On sait que les juifs ne peuvent pas, par exemple, devenir président, ils ne sont pas dans l'enseignement, ils ne peuvent aller que vers des professions libérales. Donc il y a vraiment un bascule après la révolution de 1979, mais c'est un moment temporaire parce que on constate aussi que la société civile iranienne, ça on l'a montré dans le livre, ne montre pas quelconque animosité à l'égard des juifs d'Iran et des juifs au sens plus large du terme.
Comment se construit cet antisémitisme de la deuxième moitié du XXe siècle? C'est-à-dire, il y a des sources européennes, vous montrez comme quelque chose qui n'est pas endogène, hein, qui ne vient pas de l'intérieur.
Oui et non.
Alors, contredisez-moi.
Oui et non.
En tout cas, il y a une généalogie de la dimension composite d'un discours qui fait du juif et de l'antisémitisme, et évidemment de l'antisionisme, le point central de la doctrine des mollahs.
Oui, tout à
comment
fait.
Comment ça se crée, quoi?
C'est-à-dire, c'est comparable à ce qui se passe en Europe. C'est-à-dire qu'il y a un anti-judaïsme traditionnel dans le christianisme, on le sait. Il y en a un aussi dans l'islam. Il y a des pogroms au XIXe siècle en Iran, avant l'arrivée des idées modernes. Mais effectivement, il y a quelque chose de nouveau dans l'antisémitisme. En fait, l'antisémitisme des frères musulmans qui passe en Iran à partir des années 50. Alors, ce qui est certain, c'est que la formation d'un foyer national juif dans les années 20-30 en Palestine, puis la création de l'État d'Israël, c'est pour le clergé musulman dans son ensemble, c'est une immense provocation, un choc, c'est insupportable. Donc, voilà. Donc, il y a ça qui est... Et le clergé chiite ne fait pas exception de ce point de vue. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, donc, il y a les frères musulmans qui instrumentalisent ce choc, cette cause palestinienne et cette volonté d'éradiquer le foyer national juif puis l'État d'Israël donc, dès les années 30-40. Ils organisent des corps expéditionnaires pour aller combattre les juifs, etc. Et en fait, au début des années 50, donc cet antisémitisme, se coagule, j'ai envie de dire, à la fois donc, chez les frères musulmans hors d'Iran et chez ceux qui vont devenir les frères musulmans. Et effectivement, la spécificité de cet antisémitisme-là, par rapport à l'antisémitisme ou à l'antijudaïsme traditionnel qu'on a en terre d'islam, c'est d'une part ce thème profondément européen, qui est que les juifs sont responsables de tous les maux de la modernité. C'est-à-dire que derrière l'égalité homme-femme, derrière le sécularisme, derrière le marxisme, derrière la psychanalyse, derrière tous les maux de la modernité, il y a des juifs. C'est les juifs qui sont à l'origine de tout cela. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui a été complètement récupéré par les frères musulmans. Ça vient d'Europe, clairement. Le conspirationnisme, l'idée qu'il y a une vaste conspiration juive mondiale pour dominer le monde, donc qui est consignée dans les protocoles des sages de Sion, donc le grand texte de la littérature antisémite européenne, hein, c'est une fabrication russe, qui est traduit et importé dans les pays musulmans à partir de la fin des années 20, début des années 30, que récupèrent les mollahs, voilà. Et puis évidemment l'antisionisme éradicateur, c'est-à-dire l'idée que c'est un devoir sacré, c'est de faire le djihad pour tout musulman, de faire le djihad contre Israël, de libérer la Palestine du joug sioniste. Et donc c'est l'antisémitisme que va professer Khomeini et son entourage à partir les premiers discours. Moi, alors, peut-être qu'il y en a avant, mais vraiment les premiers discours obsessionnellement antisémites de Khomeini, c'est au moment de la Révolution blanche, donc une révolution modernisatrice impulsée par le Shah d'Iran en 1963. Khomeini se fait connaître et devient un personnage public à cette occasion-là dans son opposition à la Révolution blanche, qui est donc opposition à la réforme agraire, opposition au droit de vote des femmes, sur tout ça, et discours antisémite vraiment radical. Derrière tout ça, il y a les Juifs. Le chat est l'agent des Juifs, le chat est l'agent d'Israël, et donc voilà, c'est des malheurs qui nous viennent des Juifs. Et le négationnisme, ça viendra après, ça viendra à la fin des années 90, mais ça va être l'ultime ajout de l'antisémitisme iranien, enfin des mollahs en fait, à l'architecture générale.
Ouais. Il y a une question qui me vient, comment l'Iran est devenu une sorte de cause de gauche?
Petit à petit, une certaine alliance se forme entre une partie de la gauche qui s'inspire des luttes politiques tiers-mondistes avec l'opposition religieuse, dans le sens que finalement, les finalités, les objectifs sont les mêmes, combattre l'impérialisme, combattre les États-Unis, combattre le Shah d'Iran. Donc, il se peut qu'on puisse justement s'entendre sur un certain terrain de lutte politique. Et puis à cela rajoute aussi le fait que la crise du Parti communiste, qui a joué un rôle très important au début du XXe siècle, le Parti communiste, c'est aussi le vecteur des idées modernes en Iran dès le début du XXe siècle, mais les prises d'opposition du Parti communiste sont de plus en plus contestés, notamment du fait que s'il y a des moments critiques, le Parti communiste va prendre la défense de l'Union soviétique. Donc il y a cette dimension nationaliste aussi qui entre en jeu. Et donc ça fait que le Parti communiste, à partir de la deuxième moitié du XXe siècle, est de plus en plus discrédité, et il y a des groupes de gauche qui montent de plus en plus, qui s'inspirent des combats tiers-mondistes et qui se rapprochent de plus en plus de ce qui est l'opposition religieuse.
Moi, je dirais aussi qu'il y a, il y a une dimension, j'ai envie de dire, philosophique ou culturelle, intellectuelle derrière cette évolution, qui est que les années 50 sont marquées par la crise Mossadegh. Mossadegh, donc premier ministre d'Iran, qui tente donc c'est à la fois donc un modernisateur, un laïc, hein, il n'est pas du tout pour appliquer la charia, et il veut que l'Iran reprenne le contrôle de ses ressources naturelles, et donc il nationalise le pétrole, en enlevant aux Anglais et aux Américains leurs ressources pétrolières locales. Ça se termine très mal puisque les Américains sont sont partie prenante d'un coup d'État qui va renverser Mossadegh, et donc à la suite de laquelle il va y avoir à nouveau des gouvernements favorables, notamment aux Américains. Donc à partir de ce moment-là, pour toute une génération d'intellectuels, c'est la rupture, c'est-à-dire que la voie vers un Iran moderne et indépendant semble une voie sans issue, en tout cas si on suit un chemin laïque et démocratique. Et donc, la seule voie possible pour un Iran indépendant et moderne à sa manière, c'est un retour à soi. Le terme du retour à soi devient omniprésent, un retour à soi religieux, en fait, un retour à soi centré sur l'identité chiite. Et donc, à partir de ce moment-là, on a toute une série d'intellectuels, dont Shariati qui a été évoqué, qui est sans doute le plus important de tous, qui vont construire une espèce de théorie où le socialisme à l'iranienne, ça passe par l'islam chiite. Donc il n'y aura pas d'émancipation sociale sans passer par l'islam chiite. Et donc Shariati, il a des adeptes dans les années 70, notamment une organisation comme celle des Moudjahidines du peuple, qui sont par certains aspects des shariatistes, pourrait-on dire, et donc qui sont des islamo-marxistes, comme le pouvoir les appelle, mais c'est une appellation qui va passer dans le vocabulaire courant, dans le vocabulaire politique courant en Iran, des gens qui sont donc qui pensent une synthèse entre les enseignements de l'islam et une forme de socialisme adaptée aux pays du Sud. Et moi, il me semble qu'il y a quelque chose de cela, un héritage de cela, dans ce qu'on entend dans la gauche contemporaine, où on considère, sans forcément le formuler aussi clairement que cela, mais que l'islam a une dimension socialiste, que l'islam serait le socialisme des pays musulmans, et que donc l'émancipation dans ces pays-là passerait par l'islam. Donc il y a cette dimension-là. Puis il y a une autre dimension qui peut-être est encore plus importante dans nos sociétés occidentales, qui est la haine de l'impérialisme occidental, comme si c'était le seul impérialisme qui existait. Et donc, tout ce qui est anti-impérialiste occidental va dans le bon sens, quoi. On est revenu, à mon avis, à une lecture du monde aussi binaire qu'à l'époque du stalinisme, où il y a une bipartition de l'humanité. Les occidentaux sont les impérialistes, les prédateurs et les méchants. Et donc tout ce qui s'élève contre l'impérialisme occidental est ipso facto positif. Et c'est ce qui explique que...
Même une théocratie liberticide.
Alors tout le monde ne va pas jusqu'à brandir les drapeaux de la République islamique dans les manifestations. Il y a des gens qui le font. Hein, et je ne sais pas si vous avez vu Varoufakis, l'ancien ministre grec du gouvernement de Tsipras, s'est fait filmer il y a quelques jours avec un drapeau devant l'ambassade d'Iran avec un drapeau de la République islamique. Donc il y a vraiment des gens qui vont jusque-là. Mais la plupart de ceux qui sont dans cet anti-impérialisme occidental ne vont pas jusque-là, mais du coup, ils ont le plus grand mal à condamner les assassinats de la République islamique, les tueries, par exemple les tueries de janvier dernier. Et on a des gens comme Francesca Albanese qui saute sur ses pieds dès qu'elle peut imputer un meurtre à Israël ou aux États-Unis, mais qui s'est refusée à condamner les massacres de janvier dernier en Iran.
Et ça, c'est quelque chose de très problématique. Et d'ailleurs, ça, c'est l'un des points de divergence entre une grande partie de la société civile iranienne et ce qu'est l'opinion politique internationale et ce qu'on appelle parfois Global Left, etc. C'est de voir que, par exemple, ils ont mis beaucoup de temps avant de condamner les massacres qui ont eu lieu. Ils ont introduit des doutes sur le nombre des morts qu'on entendait. C'est vrai qu'on ne peut pas savoir, on n'a pas accès à ce qu'est la société iranienne, donc c'est difficile d'avoir une estimation exacte. Mais de voir que finalement, les deux poids et deux mesures ont été appliqués. Dans d'autres cas, ils ont été beaucoup moins dans une attitude sceptique, si vous voulez. Tandis que sur ce cas-là, ils ont mis du temps avant de l'admettre.
Alors, vous évoquez des moments de l'histoire la plus récente qui ont eu lieu au moment où vous terminiez le livre, où j'imagine où il était imprimé et qu'il arrivait en librairie. Vous terminez ce livre en disant « À l'heure où nous achevons cet ouvrage, la révolte déferle à nouveau dans les rues des villes iraniennes. » Et vous terminez par « Vive la lutte du peuple iranien ». Donc c'est un contexte qui était celui du moment. Là, on est 3-4 mois après. Il y a 2 mois et demi, une guerre a été déclenchée. Bon, je vous avais dit tout à l'heure, ce livre, et c'est vrai, enfin, je veux dire, j'en ai fait l'expérience, c'est une clé de compréhension. J'aimerais savoir, dans un premier temps, comment vous avez vécu le déclenchement de cette guerre et comment, finalement, votre réaction après peut-être le déclenchement de cette guerre a pu évoluer. Parce qu'on est face à un événement qui ne cesse d'évoluer, de bifurquer, dont on ne comprend pas toujours bien le ressort, la destination, les intentions, l'impact que ça a auprès de la société iranienne. Et ça m'intéresserait de savoir ce que vous, en particulier, vous en pensez, qui êtes, j'imagine, en discussion avec votre famille qui est là-bas. Enfin, comment, avec ce livre, on pourrait dire, en tête, et produit, une fois produit, on, jour après jour, on voit ce qui se passe là-bas.
La guerre qui a eu lieu était attendue, en fait. Donc, les gens savaient que tôt ou tard, il y aura de toute façon une guerre. Donc ça, les gens n'étaient pas du tout étonnés. D'ailleurs, ils l'attendaient de tel point qu'elle est même devenue le sujet de drôleries et des blagues. Donc, parfois, il y a un truc qui ne va pas, on te dit parce qu'il y aura bientôt une guerre. Donc, le fait que tôt ou tard, l'Iran sera attaqué, ça n'a pas surpris la société iranienne, dans le sens que les gens reportaient des voyages, etc., en attendant de voir comment la situation va évoluer. Après, en ce qui concerne les réactions, c'est que, en fait, n'oublions pas que la société civile iranienne est un peu en deuil depuis le mois de janvier. C'est un trauma quand même que nous avons vécu en Iran. C'est-à-dire que dans l'histoire contemporaine iranienne, nous n'avons jamais eu, dans les moments les plus sanglants de l'histoire du 20e ou du 19e iranien, on n'a jamais connu un nombre de morts si important dans l'espace de quelques jours.
Là, on parle des 30 000 morts assassinés, je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté, le massacre perpétré par le régime des Mollahs contre sa propre population.
Tout à fait. Donc quand les bombes ont visé, par exemple, le précédent guide suprême, c'est sûr qu'on a vu des gens qui sont venus danser, etc. Donc ce moment de joie, c'est quelque chose qui est tout à fait compréhensible de la part d'une population qui souffre, enfin qui souffre même aujourd'hui, d'un régime si brutal et si liberticide. Après, sur la question de l'intervention étrangère, la société civile iranienne est divisée. C'est vrai qu'on n'a pas accès à ce qu'est la société, on ne peut pas faire des sondages, des enquêtes, etc. Mais il y a des indicateurs, il y a des indications, il y a des personnalités célèbres. On peut suivre justement l'évolution des idées à travers ces représentants-là. Donc, en effet, il y a une partie qui se réjouit de l'intervention étrangère.
Même encore maintenant ?
Encore maintenant, oui, tout à fait.
Là-bas ?
Là-bas, en Iran, moi j'ai eu l'occasion d'en parler avec des amis qui disaient quel dommage qu'ils n'ont pas achevé l'affaire. Donc il y a encore tout un enthousiasme vis-à-vis de cela. Mais il y a toute une partie aussi qui rejette l'intervention étrangère. Mais le rejet de l'intervention étrangère va toujours systématiquement de pair avec le fait que si on en est là, c'est à cause de la République islamique. Donc la condamnation de l'intervention étrangère et la condamnation de la République islamique et le fait qu'il va falloir que que les activités nucléaires soient arrêtées sont des choses qui vont ensemble. Ce qu'on n'a pas forcément dans le discours qui condamne l'intervention étrangère en Occident. Ça, on a une condamnation catégorique, d'accord, mais pas forcément une condamnation de la République islamique ou ses activités nucléaires. Tandis que pour le peuple iranien, c'est très clair, c'est très net. Une république islamique nucléaire, c'est une menace mondiale, certes, mais c'est aussi la fin du rêve démocratique en Iran. On ne peut plus du tout parler de quelconque passage, transition démocratique si la république islamique se transforme en puissance nucléaire. Mais donc il y a cette ambivalence vis-à-vis de ce qui est la guerre, mais le commun entre ces deux discours, c'est qu'il faut en finir aussi avec la République islamique. Donc ce n'est pas du tout condamnation de la guerre, n'est pas une manière de soutenir la République islamique. C'est de dire que c'est au peuple iranien de mener cette affaire, de mener ce combat. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez dans le discours qui condamne la guerre, en tout cas dans certains discours qui condamnent la guerre en Occident.
Un des aspects, qui me vient d'avoir travaillé sur ce sujet dans la compréhension de la guerre, c'est vraiment une forme d'angoisse par rapport à la menace nucléaire représentée par la République islamique. Parce que pour avoir étudié de près leur mentalité, leur état d'esprit et leurs objectifs, je sais, contrairement à la plupart de mes interlocuteurs, que quand la République islamique dit qu'elle veut détruire Israël, c'est une réalité. C'est pas des propos en l'air. Moi, j'entends beaucoup ici des gens qui minimisent complètement cette dimension, qui disent « mais non, mais ils disent ça, mais ils vont pas le faire ». Moi, je trouve que quand on travaille en profondeur sur qui sont les Mollahs, quelle est leur idéologie et jusqu'où ils sont prêts à aller, c'est pas le cas de tous. Dans l'appareil de la République islamique, on a aussi des pragmatiques et même des cyniques, des gens qui... ne sont pas des idéologues qui veulent se maintenir au pouvoir, qui veulent garder leur prébende économique, etc. Mais on a aussi des vrais fanatiques, des gens qui sont comparables aux nazis sur le plan du fanatisme et qui donc sont prêts à aller jusqu'au bout. Et donc, la menace nucléaire iranienne, Amir Pasha a dit, c'est une menace pour les Iraniens, et c'est tout à fait exact, c'est vraiment, ça verrouillerait complètement le système. C'est une vraie menace pour l'État d'Israël, c'est pas une menace fictive, et c'est une menace pour le monde d'une manière plus générale. Donc on a cette idée-là en tête quand on regarde cette guerre. Je ne sais pas où en est le programme nucléaire iranien aujourd'hui, je ne sais pas ce que les frappes ont produit comme résultat. Ce qu'on sait en revanche aussi, Amir Pachalali, mais c'est que contrairement à ce qu'on entend ici aussi parfois, il n'y a pas eu d'effet drapeau. Hein, il y a plein de gens qui ont dit mais la République islamique, elle est plus forte qu'avant.
Eh ben oui, elle en sort renforcée.
Elle en sort renforcée parce que du coup, les Iraniens se sont rassemblés autour de leur leader. C'est pas vrai.
Ça, vous le confirmez?
Non,
c'est pas vrai. Ils ont même fait appel à leurs milices
venant
des quatre coins du monde pour les soutenir.
C'est pas vrai, notamment parce que, et ça, c'est quelque chose qu'on a constaté grâce aux sources, notamment par Amir Pacha, c'est que, mais par d'autres Iraniens qui le disent aussi, le mois de janvier 2026 est une rupture dans l'histoire de l'Iran, c'est un trauma collectif et c'est vraiment, il y a un point de non-retour qui a été franchi entre les Iraniens et la République islamique. Il y avait déjà de toute façon une contestation qui était massive, qui était ultra majoritaire dans le pays, mais là avec les massacres atroces qui ont eu lieu, des blessés achevés dans les hôpitaux, des infirmières, des médecins arrêtés, emprisonnés parce qu'ils soignaient les blessés, des gens poignardés dans les rues après qu'on leur ait tiré dessus. Enfin, ça a été une telle boucherie, en fait, que c'est impardonnable. Et les bombes américaines et israéliennes n'ont rien changé à ce caractère impardonnable. Donc ça, on le sait. Et en fait, le problème des Iraniens, c'est pas de se ranger derrière leur gouvernement ou pas, c'est comment faire quand on est à main nue face à ce régime. Et moi, je suis étonnée que la question de l'armement de la population iranienne ne soit pas posée plus souvent, parce qu'au fond, c'est ça l'enjeu.
Mais comment faire? Comment une situation dont on a pu croire, il y a 3 mois, qu'elle pouvait vite se terminer, avec la chute d'un régime, pendant 2-3 jours, on s'est dit que ça va tomber, ça va être terminé. Et en fait, ça dure, et on ne voit pas comment on va sortir de cette durée-là. Donc, il y a ce paramètre du temps et de la durée. Comment on peut la penser aujourd'hui, hein?
Moi, je dirais que si on a pensé qu'un régime comme celui des Mollahs pouvait tomber en 3 jours, c'est qu'on ne connaît pas bien le régime des Mollahs. Un régime comme
c'est
ça.
C'est ce que disaient à la fois Trump et Netanyahou.
Oui, mais un régime comme ça, ça ne tombe pas en 3 jours. Ils ont sous-estimé, bien sûr.
Ils ont sous-estimé.
Ouais. Parce qu'encore une fois, la comparaison avec l'Allemagne nazie, est, évidemment, il faut prendre avec des pincettes. Mais c'est quand même en partie le même genre de fanatique. Donc, on ne vient pas à bout de ce régime-là en bombardant pendant 3 jours. Parce que là, on dit que ça dure depuis des semaines. Oui, enfin, ça dure depuis 2-3 mois, en fait. À l'échelle historique, c'est très, très court. Donc, moi, je le vois plutôt, je ne sais pas ce qu'en pense Amir Pacha, moi, je le vois plutôt comme ça.
En Iran, de toute façon, on le disait assez tôt que ce n'est pas comme ça. Je pense que ça faisait déjà 5-6 jours que la dernière guerre avait été déclenchée. On nous disait que ce n'est pas comme ça que la République... Et même après la mort du précédent guide suprême, les gens ont dit que, oui, certes, tout le monde est venu danser, klaxonner, etc. Mais ça ne voulait pas dire que le régime était terminé. Ça, là-dessus, c'était quelque chose qui était très net. Pour les Iraniens, donc les gens avec qui on a parlé, etc., ils avaient tous cette impression que de toute façon, ce ne serait pas comme ça. Mais quelque chose qu'on n'entend pas, et là-dessus je rejoins Stéphanie Rosa, c'est quelque chose qu'on n'entend pas assez ici, c'est que l'opposition en Iran, vous savez qu'elle est éclectique. Donc là, tout le monde a mis l'accent sur le fait que pour le moment, il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de gagnant, c'est vrai. Les États-Unis d'Amérique et l'Israël n'ont... Ça ne semble pas correspondre à ce qu'il appelait regime change. Mais de l'autre côté, en Iran aussi, la République islamique est arrivée au sommet de sa violence. Donc, encore une autre fois de la répression pour le peuple iranien, qui est l'un des rares peuples aujourd'hui qui se bat pour des valeurs démocratiques. Donc, ils mettent beaucoup l'accent sur le fait que, pour le moment, il n'y a pas de gagnant dans cette situation. On est dans une situation qui n'est pas terminée. Il n'y a pas de gagnant. Mais en revanche, ce qui a été récemment dit de manière unanime par toute l'opposition, c'est que ce qu'on apprend des échanges entre les Américains et la République islamique, c'est qu'encore une autre fois, c'est le peuple iranien qui est le grand oublié de cette affaire. C'est à aucun moment on parle des prisonniers politiques, à aucun moment on parle des revendications démocratiques du peuple iranien. Donc encore une autre fois, on constate que... En tout cas, le peuple iranien se voit un peu encore une autre fois seul face à ce qui est son monstre qui est la République islamique. Mais en tout cas, il n'y a pas de gagnant pour le moment dans cette affaire, et que cette idée que la République islamique est victorieuse et même sortie même encore plus fort qu'avant, cette idée, je pense que c'est une façon de... C'est plutôt l'anti-américanisme qui fait dire ça que de réel politique. Voilà.
D'accord. Bon, ben, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.
Merci à vous.
Rosa, Amir Pacha. Je conseille vivement de lire ce livre, Lumière et anti-lumière en Iran, qui va offrir une perspective un petit peu décalée, je dirais, par rapport à ce qu'on a l'habitude de lire sur l'histoire de ce pays. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à vous.